Cette émission est une rediffusion.
Le Green Ring, rassurez-vous, vous n'y serez pas en combattant, mais en tant qu'auditeur. Le Grand Ring, c'est la plus grande arène, la plus grande émission politique qui lève le voile sur l'actualité, décortique l'actualité dans ses moindres détails. Boukabari, Mohamed Lamine Yansami, Barry Mamadou 2 détiennent les gros mots de l'actu. Avec le Grand Ring, les hommes politiques, activistes de la société civile, les grosses têtes vous disent tout. Préparez vos gants, car le Grand Ring, c'est de lundi au vendredi, de 7h30 à 9h sur le réseau synchronisé des radios Sabari FM. Nous faisons le remblai du déficit d'information. Le Grand Ring, ici, la vérité survit sur le détour des manipulateurs. Nos auditeurs prennent également la parole dans le Grand Ring en réagissant en direct sur les 621 48 48 48 ou 655 75 75 75 par SMS et sur nos plateformes.
Vous êtes très nombreux à nous préférer chez vous tous les matins quand il est 7h30 sur la radio Sabari FM et dans l'émission Le Grand Ring. Nous sommes mercredi 31 août 2022. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de la semaine de l'émission qui vous permet de comprendre l'actualité. Ibrahima Dassila sur la conduite technique assistée de Mfa Moussa Souma ici à la présentation Mohamed Lamine Yansani.
Le Grand Ryoga, le combat sera rude, seule la vérité survivra. Bienvenue au Colosse de l'info.
Au sommaire de ce 31 août, depuis l'étranger, l'ancien président guinéen fait parler de lui dans les médias chez nos confrères de Jeune Afrique. Professeur Alpha Condé crie à la trahison dans son entourage. Si je savais que Doumbouya était un ancien légionnaire français, je ne l'aurais pas nommé, a déclaré l'ancien homme fort de Conakry. Pourquoi c'est maintenant fait-il de telles déclarations? Nos chroniqueurs prendront la parole dans les minutes qui suivent. Et puis, que se passe-t-il au ministère des Infrastructures? La question reste posée. Le ministre Yaya Sow, dans un arrêté pris hier, a suspendu le directeur national de l'entretien routier pour manquement grave à ses obligations professionnelles. L'arrêté note que c'est M. Mami Kondé, directeur national des routes nationales, qui assure l'intérim. De quoi reproche-t-on à Dr Sayalonde Camara? Vous en saurez davantage. Merci d'être des nôtres de Kindia, Sigiri, Kissidougou sur la 97.3, Kankan et Dalaba sur la 96.9. Cette émission est également diffusée sur la page Facebook de la radio en live, Sabari FM 97.3 officiel. Avec moi dans ce studio, Faya Iloua Kamano, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Amblé Boukabari qui nous rejoindra d'un moment à l'autre. Barry Mamadou 2 a des soucis de santé. Ibrahima Dassila.
Dans le Grand Ring, nous ne portons pas de gants face à l'actualité.
Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour Jansani, bonjour à nos auditeurs.
Le ministre, l'actualité, en tout cas hier mardi, le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Awing, fait parler de lui après les échecs cuisants pendant les examens nationaux. Et Guillaume Awing vient en tout cas de mettre le pied dans le plat des fondateurs des écoles privées. Dans un arrêté pris hier, Guillaume Awing a fixé le barème des frais d'inscription et de réinscription des élèves des écoles privées. Dorénavant, le plafond est fixé à 100 000 francs pour la réinscription et à 150 000 francs pour l'inscription, quelle que soit l'école. En tout cas, ça c'est le plafond. Cette décision intervient au moment où le débat sur l'homologation des prix des écoles privées bat le record, en tout cas, domine l'actualité au sein de l'opinion.
Bon, à ma qualité de père de famille, je pense que même les 100 000 sont trop.
Vous avez combien d'élèves?
Non, mais vous
avez combien d'élèves à l'école?
J'ai 3 élèves à l'école et je pense que 100 000, c'est trop.
Ça, c'est le plafond.
Non, j'ai dit 150 000 le plafond et
pour,
100 000
pour l'inscription.
Pour l'inscription et réinscription. Vous savez, je ne dis pas toutes les écoles privées, mais quelques-unes sont en train de faire de l'arnaque auprès des parents d'élèves. Mm. Un élève qui vient suivre une formation académique, et je pense qu'on n'a pas besoin trop de mettre de l'argent. Est-ce que ces frais d'inscription, réinscription constituent un fonds de départ pour une école? Je réponds par la négation, non. Et ce qu'on a besoin, je pense que c'est la mensualité que l'élève doit payer, que ses parents doivent payer pour suivre ou assurer sa formation dans toutes les écoles privées du pays. Mais aujourd'hui, bon, La décision du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est une très bonne chose au départ, mais sachez très bien qu'il y a des parents d'élèves, et certains tirent pour le moment le diable par la queue, et aujourd'hui on a des difficultés même d'avoir trois repas par jour, et qu'on nous dise encore d'envoyer nos élèves et nos enfants à l'école en payant plus de 100 000 juste pour l'inscrire ou revenir à une autre école, je pense que c'est un peu difficile. Mais où je salue la décision de monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que certaines écoles privées avaient déjà fixé leurs frais d'inscription et réinscription à hauteur de 2 millions. Il y a d'autres même qui nous ont... Moi, j'ai contacté une école que je préfère taire le nom. Et on m'a parlé de 500 000 francs guinéens.
L'inscription. Ça, c'est pour le lycée ou la maternelle ou le primaire?
Ça, c'est pour la maternelle. Oui. La maternelle, c'est pas le lycée. Mes enfants, l'âge varie entre 1 à 6 ans comme ça. Donc, la première, la deuxième, leur grand frère qui n'est pas avec moi, qui est de l'autre côté. Et je pense que la direction m'a parlé automatiquement de 500 000. Les frais d'inscription, juste. Maintenant, la scolarité, on parle de 7 millions à 8 millions. Parce que la dernière, on me parle de 5 millions, 500 000. De l'autre côté, on me parle de 7 millions. Celle qui devait faire normalement
la aujourd'hui,
on a changé de position géographique. Vous n'êtes pas sans savoir que madame gère à l'intérieur du pays. Mais ce qu'il faut savoir, il est inconcevable. Je ne pense pas qu'un élève, pour juste l'inscrire, peut payer un million.
L'inscription, c'est une garantie.
Non, ce n'est pas une garantie.
Écoutez, qui prouve que j'ai pris l'engagement.
Ce n'est pas un engagement. Parce que quand tu payes, il n'y a pas un papier qui t'est offert tout de suite pour dire que...
Non, il y a un reçu de paiement.
Attention. On ne fait pas l'amalgame à la mensualité et aux frais d'inscription. On ne le fait pas. Écoutez, les frais d'inscription, c'est mentionné. Mais lorsqu'on te délivre, lorsqu'on te délivre un reçu, c'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné. C'est la mensualité qui est mentionnée sur le reçu. Mais
je ne sais pas où vous payez, mais lorsque moi, par exemple, je paye l'inscription, d'ailleurs, même si c'est des reçus séparés, mais l'inscription est une garantie pour attester que cet élève vient commencer les cours dans notre école. Sinon, ça sera de n'importe quoi.
Tu as fini?
Même dans les écoles publiques, il y a quand même de l'inscription qui est payée.
Non, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne conforme même pas rapidité et précipitation. Quand vous regardez aujourd'hui des écoles privées qu'on a dans ce pays, de Conakry jusqu'à Zo, c'est une forme d'arnaque qu'on crée autour de ces écoles pour s'enrichir sur le dos des parents d'élèves. Vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque le panier de la ménagère est vraiment difficile à gérer, aujourd'hui, nous tirons le diable par la queue. On n'a pas de possibilité de s'offrir trois repas par jour. On te dit, juste pour inscrire ton enfant, monsieur, vous payez 500 000. De l'autre côté, on vous dit, vous payez 1 million. Et ça ne relève pas. Je vous dis, ça ne relève pas de la mensualité. Lorsqu'on vous dira de payer somme colossale et vous payez, le reçu qu'on vous donne, tu parles de la garantie. Mais mon ami, dites-moi, si je n'avais pas confiance à une école X ou Y, je n'allais pas envoyer mon enfant. Mais il suffit juste, même d'abord on peut prendre même 5 000 francs. Ou de l'autre côté, on dit l'inscription, on dit 5 000 francs. La réinscription, on dit 2500.
Pour prouver que l'inscription et la réinscription est un élément essentiel dans le système éducatif, même dans le supérieur, ça existe. On a fixé récemment les prix d'inscription et de réinscription dans les universités publiques. C'est un fait qui existe à l'étranger, c'est un fait qui existe. Peut-être que le prix que vous avancez est certes colossal, est certes élevé devant vous, mais sinon, c'est un fait qui existe.
Donc, toi, tu as dit 500 000 pour inscrire juste ton enfant, ça ne te dit rien, quoi?
C'est un autre détail.
Jan Sané, tu es un boss,
c'est un autre détail.
Tu es un boss. Quand tu dis aujourd'hui, c'est une garantie de payer 500 000, pourquoi la décision de monsieur le ministre, c'est une bonne décision. Voilà. Mais je voudrais que le ministre Guillaume Aouine mette en place une structure de veille. Parce qu'en Guinée, c'est facile, très facile d'ailleurs, de prendre des bonnes décisions, mais le suivi n'est pas là. Vous voyez, au niveau du transport, lorsque le syndicat, en commun accord avec les autorités du pays, met en place ou dicte
fixe les prix
des tronçons, vous voyez un chauffeur, dès qu'il s'arrête devant, vous dit, monsieur, ce n'est pas le gouvernement qui paye le carburant pour moi. Si c'est à 2 000 francs, moi je vous dis c'est à 5 000. Si vous voulez, vous rentrez. Et si vous ne voulez pas, vous restez. Mais vous partez de l'autre côté. En Sierra Leone, par exemple, là où j'ai un peu de maîtrise sur le fonctionnement du gouvernement, mon ami, si on vous dit, à Yomo, vous devez payer 1 000 francs, même si vous venez à Conakry, ce sont des 1 000 francs-là qui sont payés. C'est pourquoi ils ont misé sur la police. Là-bas, c'est la police qui est trop considérée.
Le pays anglophone, il n'y a pas de gendarmerie.
Voilà. C'est la police. La police est un élément phare dans le développement d'une nation, dans la lutte contre la corruption,
dans la
lutte contre le grand banditisme.
Dans
les grands enquêteurs, ce sont des policiers.
Dans l'arrêté du ministre de l'Éducation, dans l'arrêté du ministre Guillaume Awing, il instruit les directeurs des DCE.
C'est directeur des directions.
Je pose la question, il instruit les chefs services à veiller à l'application de cette.
Ça a été toujours comme ça, c'est pas une nouveauté. Dire au directeur de veiller n'est pas une nouveauté pour moi. Je sais que ça sera dit, mais est-ce que ça sera respecté? J'interpelle, monsieur le ministre, c'est très beau d'arrêter derrière les micros de la maison mère, prendre une décision qui, à mon avis, arrange le bas peuple. Mais lorsque l'applicabilité de cette décision cause problème sur le terrain, je pense que le ministre doit d'abord veiller à ça, mettre en place, créer ça aussi, c'est une création d'emploi. Lorsqu'on récupère un enfant qui n'a aucun boulot, qui n'est pas occupé, vous lui dites, vous êtes payé en fonction du résultat obtenu sur le terrain. C'est-à-dire quoi?
Peut-être même on peut mettre en place un numéro vert.
Les numéros verts, des fois, on peut les mettre en place et puis quand vous appelez, il n'y a personne qui vous décroche, il n'y a personne qui ne vous répond. Et si vous appelez avec les sapeurs-pompiers, ils vous diront toujours, on n'a pas de carburant. Mais si vous mettez en place une structure, vous recrutez les enfants hors administration et qui seront payés en fonction du résultat qu'ils vont obtenir sur le terrain, je pense que la décision pourrait être appliquée à la lettre. Mais si vous restez au bureau, vous prenez des décisions, même si à vue d'œil, ce sont des décisions salutaire, je pense qu'il faut suivre. C'est le suivi qui manque en Guinée.
C'est Ablaye Bouka qui m'a appelé hier, qui m'a alerté par rapport à ce communiqué. Je crois qu'il y a 3 à 4 vacanciers qui doivent venir chez lui. Bouka Barry, bonjour.
Bonjour,
je crois que vous avez aussi suivi, c'est vous qui m'avez d'ailleurs alerté, ce communiqué du ministre Guillaume Awing fixant dorénavant le plafond, en tout cas pour les inscriptions cette année, à 100 000, pour les inscriptions à 150 000 dans les écoles privées et l'inscription et la réinscription à 100 000 francs. C'est une mesure pour vous salutaire?
Bon, d'une part, une mesure salutaire, mais comme le disait Faya, il faut procéder à cette méthode de suivi dans les écoles. Parce que hier, pas qu'hier, j'ai tenté de prendre des informations auprès de des écoles. Semblerait-il que cette décision n'est pas du tout n'est pas bien accueillie du côté des écoles privées. Parce que ces écoles estiment que, vu les investissements qu'ils font pour la rénovation de leurs écoles.
Cette émission est une rediffusion.
Attendez
qu'il finisse.
Pour eux, pour ces responsables, c'est pas du tout concevable qu'on puisse fixer l'inscription à 150 000 francs et la réinscription à 100 000 francs guinéens. Si toutefois le responsable de cette école, son information semble être vraie, il compte vraiment aller à la rencontre du ministre Guillaume Awing pour vraiment essayer de voir avec lui la nécessité de rehausser, selon eux, l'inscription à 200 000 et la réinscription à 150 000.
Oui, sauf que le ministre précise que, en tout cas, c'est une décision prise de façon consensuelle.
De façon consensuelle, avec les responsables des écoles privées. Sauf que à cette réunion qui se serait tenue du côté du ministère de l'enseignement préuniversitaire, semblerait-il que ce sont les représentants d'une portion d'école privée qui ont été à la réunion, pas la globalité. Parce que quand on parle de cette question, aujourd'hui, l'éducation semble être la priorité pour tout père de famille conscient de l'avenir de son enfant. Est-ce que cette cette mesure va se décentraliser du côté de l'intérieur du pays.
C'est parce sur que là, toute l'étendue du niveau, territoire. Non, écoutez, j'en viens, clair, oui.
Parce qu'il y a ces écoles, par exemple, à l'intérieur, où on paye la mensualité, c'est-à-dire le mois est payé qu'à 45 000, à 30 000.
Non, on dit le plafond.
Écoutez, oui. Non, il n'y a pas de la mensualité. C'est que la mensualité doit être plus que les frais d'inscription.
Les frais d'inscription. C'est-à-dire, voilà. L'inscription est beaucoup plus élevée que la mensualité.
Non. Dans les conditions normales. Non, écoutez, c'est Jean Sané qui ne comprend pas.
Attendez.
Ce que veut dire Bouka dit qu'à l'intérieur du pays, il y a des écoles privées. Dont la mensualité est fixée à 45 000 francs. Mais lorsque le ministre fixe l'inscription à 100 000 francs, cela veut dire que l'inscription, les frais d'inscription sont plus que déjà la mensualité.
Au contraire, c'est vous qui ne comprenez pas.
Bouk avait dit. Au contraire, la mensualité doit être plus que les frais d'inscription.
Peut-être que vous ne comprenez pas le message du ministre.
On comprend très bien. C'est toi qui ne comprends pas.
Le communiqué est clair, c'est le plafond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser ce seuil. Mais vous pouvez être en dessous de ce seuil. Voilà, vous pouvez continuer.
Mais pensez-vous qu'une école va accepter, à partir du moment où le ministre a pris une décision et un communiqué pareil pour dire...
Un arrêté pour dire
le plafonnement de l'inscription au niveau des écoles privées, c'est 100 000 francs. Pensez-vous qu'une école sera prête à faire une inscription à 50 000
à 50 000
c'est possible, oui.
Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, nous savons tous les conditions dans lesquelles vivent ces responsables d'école. Parce qu'ils vivent sur le dos des parents d'élèves. Aujourd'hui, à mon avis, cet arrêté du ministre, au-delà d'être une source, c'est-à-dire un arrêté qui puisse aider les pères de famille, ça va plutôt créer des confusions au niveau des écoles. Parce que moi, de mon côté, je ne peux pas accepter que je paye une mensualité, je paye 55 000 par mois à l'intérieur du pays, et que l'école m'impose à payer 100 000 francs pour inscrire mon enfant. À mon avis, je ne suis pas prêt à le faire.
Si
on se tient par rapport, parce que d'autres disent que ces frais sont, ce montant a été fixé en tenant compte que des écoles de Conakry. Parce qu'on a l'impression que nos cadres ont dans leur tête que c'est Conakry, c'est-à-dire
la République se résume à Conakry.
Alors qu'à l'intérieur du pays,
Est-ce que vous partagez ce point de vue que cette décision pourrait se heurter à des difficultés dans son application sur le terrain?
Oui, dans la mesure qu'elle ne sera pas suivie. C'est ça le problème. Sinon, il peut y avoir tout de suite, dans les écoles où les parents d'élèves payent la mensualité à hauteur de 40 000, 45 000, et comme ça, et la direction peut tout de suite inviter les parents d'élèves pour se retrouver décidés, même si pour des fondateurs d'école qui sont de bonne foi, peuvent interpeller les parents d'élèves pour leur dire, écoutez, même si le ministre a pris une telle décision, en commun accord avec nos représentants du côté de la capitale. Mais nous ici, nous sommes ensemble. Le vivre ensemble voudrait que nous soyons de votre côté aussi. Il peut vous dire, c'est 100 000, mais nous, chez nous, on peut vous donner à 50 000, à 65 000 ou à 40 000.
Il faut préciser.
C'est le plafond. Mais là où tu ne comprends pas, Jean Sané, un ministre de la République qui parle, il parle au nom du gouvernement. Quand on dit État, ce sont des gens qui nous dirigent et nous-mêmes qui sommes derrière ce micro et le bas peuple ou le citoyen lambda qui se trouve jusqu'à Yomou. C'est de ça qu'il s'agit. Le ministre prend une décision, il dit c'est le dernier, c'est-à-dire on ne doit pas dépasser. C'est le barème. Si on dit barème, c'est qu'on ne doit pas dépasser. Donc, moi j'ai une école privée, le ministre a dit à 100 000 francs, mais tu viens, je vais te dire de payer les 100 000. Je ne dois pas aller au-delà, même si avant vous payiez 40 000 ou 10 000 francs. Les frais d'inscription à l'intérieur, ça a existé quand j'étais à mission en 2018, 2019, 2020, à l'intérieur du pays, parce que j'étais du côté des Érékoré. Je connais des écoles où on payait même la mensualité sur les frais d'inscription à 5 000 francs, à 10 000 francs, la réinscription. C'est des trucs comme ça là. Mais toutefois, si elle est suivie, c'est une décision qu'on peut saluer, mais la faute de nos dirigeants, ce n'est pas une nouveauté. Ils peuvent annoncer, ils peuvent faire de très belles annonces, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Ça va se heurter à beaucoup de problèmes. Si la décision n'est pas suivie, vive les conséquences.
L'application pourrait poser problème, mais sauf que Guillaume Aouine, qu'on a connu en tout cas très rigoureux pendant ces examens nationaux. Ces décisions semblent être quand même...
Non, mais mon ami, quand on dit roi, c'est quand il y a des éléments derrière. Lui seul ne peut pas gérer quelque chose.
Éloi, il faut être discipliné dans le studio. Quand je pose la question...
Non,
il faut être discipliné dans le studio.
Il
faut être discipliné dans le studio.
Allez-y.
Quand Guillaume Awin, quand même, qu'on a connu pendant les examens... Il est quand même très strict. On a vu des enseignants renvoyés, des surveillants aussi renvoyés. Est-ce que vous ne voyez pas Guillaume Awin sanctionner même des fondateurs d'école ou des responsables d'école qui n'accepteraient pas de se plier à cette décision?
Oui, bien sûr. Et connaissant l'homme, connaissant les actions qu'il a prises pendant les examens nationaux, on a l'impression que Guillaume, quand il décide, forcément, il faut que les uns et les autres suivent, en tout cas en matière de l'éducation. Parce que c'est ça aussi la force de ce ministre. Il faut rappeler toutes les personnes, tous les enseignants qui ont suivi des sanctions pendant le déroulement de ces examens nationaux, à mon avis, c'est quelque chose qui a été traduit en justice. D'ailleurs, sans oublier les délégués qui ont été pris en flagrant délit en train d'accompagner les candidats dans les fraudes, à mon avis, c'est quand même un des caractères qu'il ne faut pas du tout enlever à la personne de Guillaume, parce que souvent, même si souvent on a l'impression que le ministre œuvre beaucoup plus dans cette sortie médiatique pour effrayer les uns et les autres, mais à l'allure où va les choses aujourd'hui, Guillaume, force est de reconnaître que c'est quelqu'un qui est très rigoureux quand il prend un arrêté, quand il prend une décision en matière de la promotion et de la qualification du système éducatif guinéen. Ça, il faut le dire. Mais encore une fois, je garde personnellement des doutes par rapport à cet arrêté. Si toutefois il ne veille pas à ce que cela soit appliqué. Nous connaissons bien les intentions de certains responsables d'école à Conakry qui travaillent et qui n'ont qu'une seule ambition, récolter, parce qu'il faut le dire, il y a des commerçants, il y a des cultivateurs, il y a des agriculteurs qui ont créé des écoles, après on les confie à des Ivoiriens, à des Burkinabés, et tant d'autres Guinéens, et tant d'autres Guinéens pour la gestion. Donc ils ne savent pas ce qui s'y passe là, et ce sont ces responsables-là qui fixent
On marque la pause pour nos obligations commerciales et on revient juste 10 minutes après pour continuer le débat.
Combattant, mais tant qu'auditeur. Le Grand Ring, c'est la plus grande arène, la plus grande émission politique qui lève le voile sur l'actualité, décortique l'actualité dans ses moindres détails. Boukabari, Mohamed Lamine Yansami, Barry Mamadou 2 détiennent les gros mots de l'actu. Avec le Grand Ring, les hommes politiques, activistes de la société civile, les grosses têtes vous disent tout. Préparez vos gants, car le Grand Ring, c'est de lundi au vendredi, de 7h30 à 9h sur le réseau synchronisé des radios Sabari FM. Nous faisons le remblai du déficit d'information. Le Grand Ring, ici, la vérité survit sur le détour des manipulateurs. Nos auditeurs prennent également la parole dans le Grand Ring en réagissant en direct sur les 621 48 48 48 ou 655 75 75 75 par SMS et sur nos plateformes.
De retour dans ce studio de la 97.3 Sabari FM pour la deuxième partie du Grand Ring de ce mercredi 31 août 2022. Merci d'être des nôtres de Kindia, Sigiri, Kissidougou sur la 97.3, Kankan et Dalaba sur la 96.9. Cette émission est également diffusée sur la page Facebook Sabari FM 97.3 officielle. Alors... Éloi Kamano, on parlait toujours de l'application de cette décision. Avant de prendre Michel Pépé Balamou, secrétaire général du Syndicat national de l'éducation, pour sa réaction suite à cet arrêté du ministre, la question qu'on se pose, c'est comment cette mesure peut être suivie sur le terrain.
Bon, on a déjà l'invité en ligne.
Oui, comment cette mesure peut être suivie sur le terrain?
On a l'invité en ligne, non, on va le prendre.
Éloi, c'est pas vous qui conduisez l'émission.
Allez-y,
comment cette mesure peut être suivie sur le terrain?
Bon. Tout en mettant une stratégie de suivi. S'il n'y a pas de suivi, même à la maison, vous avez vos enfants. Les enfants sont là, ils peuvent quitter à l'école, ils viennent s'il n'y a pas de suivi. Même si ce sont des enseignants de haute qualité qui les enseignent, qui les dispensent les cours, je pense que en famille, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau du gouvernement, toute action ou toute décision prise doit être suivie à la lettre.
Alors,
sinon, nous partons carrément dans les conditions qu'on ne souhaite pas.
On va prendre la réaction, en tout cas, d'un acteur du système éducatif, Michel Pepe Balamou. Il est le secrétaire général du Syndicat national de l'éducation. Monsieur Balamou, bonjour.
Bonjour et bonjour à vos co-animateurs et à vos millions d'auditeurs.
Boukabari.
Un arrêté du ministre Guillaume Aving hier fixant le barème de l'inscription et des réinscriptions dans les écoles privées de 100 000 à 150 000 francs. Tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport à cet arrêté?
La privatisation à outrance de l'éducation dans notre pays est une réalité tangible, tant plus que ça remet en cause la gratuité de l'éducation tant prônée par les dirigeants de la République depuis 1958 jusqu'à nos jours. Et ce secteur doit être réglementé et faire en sorte que les fondateurs qui ont créé des écoles pour venir en appoint à l'État pour pouvoir atteindre la scolarité primaire universelle soit aussi soumis à l'empire de la loi, du contrat de travail, mais aussi subventionné. Et je pense que c'est à ce seul titre que nous pouvons réussir à réglementer ce secteur-là. Et donc, en 2012, des gros efforts ont été faits.
Votre sentiment par rapport à l'arrêté pris par le ministre?
Oui, on en arrive, mais je ne suis pas un élève du primaire. Il faut faire le contexte et la justification. Et donc, en 2012, des efforts ont été faits pour classifier les écoles, mais jusqu'à date, l'État n'a pas une situation claire sur les écoles privées en République de Guinée. Donc, s'il y a des mesures à prendre d'atténuation des coûts d'inscription et de réinscription à ce niveau, je pense qu'il va falloir d'abord connaître combien d'écoles privées nous avions, quelles sont les conditions d'implantation de ces écoles privées, et sont-elles dans les bâtiments privés à but commercial ou appartiennent-elles aux fondateurs qui ont créé ces écoles? Je pense que c'est à cela qu'on peut facilement fixer un prix moratoire.
Donc, pour vous, cette décision pourrait se heurter à des difficultés sur le terrain?
Tout à fait. Je vous dis, quand un secteur n'est pas réglementé, c'est comme le secteur du loyer en République de Guinée. Chacun fixe son prix comme il le veut. Vous avez deux chambres de salon à Lambaye, on vous parle de 3 millions. Vous venez à Matoto, on vous parle de 800 000 francs. C'est la même chose dans les écoles privées. Et puis, la note circulaire va très loin. Il y a beaucoup d'écoles privées qui fixent l'inscription à 30 000 francs et la réinscription à 40 000. Donc, si vous fixez le plafonnement à 100 à 150 000 francs, sans savoir que vous êtes en train d'ouvrir une boîte de Pandore pour ceux-là qui étaient à 30 000 francs, qui peuvent se dire, écoutez, nous avons la possibilité d'aller à 150 000 francs, comme l'atteste la note circulaire du ministre. Je pense qu'il a la volonté de vouloir réglementer le secteur, il a la volonté de vouloir apaiser la souffrance des parents d'élèves, il lui manque la stratégie et la méthodologie.
Oui, à vous entendre, on a l'impression que M. Guillaume Aouine a mis la charrue avant le bœuf, c'est ça?
Oui, tout à fait. Au fait, c'est un secteur très compliqué. Et dans les recensements de 2020, faits par le Bureau des stratégies et de développement, il existait en Guinée 4166 écoles privées, tout profil confondu. Et donc, si aujourd'hui vous devrez vouloir uniformiser, d'abord, il a échoué pour un premier départ en disant aux écoles privées de payer le 9e mois aux enseignants.
L'année en cours, oui.
Est-ce que sur le terrain, ça a été effectif?
Voilà.
Ce paiement a été effectif.
Parce que certains ont dit que c'est le travail qui est payé, non le travailleur, puisqu'il y a certains enseignants qui ont un contrat à durée déterminée. Et donc, ils sont payés à la tâche. D'autres aussi sont permanents dans les écoles et aussi sont payés pendant les 12 mois.
Oui, sauf que les parents de l'élève payent les 9 mois.
Oui, je ne suis pas en train de défendre les fondateurs. J'ai dit effectivement ce qu'ils ont dit. J'ai dit ce qui est et non ce qui devrait être. Donc, la réalité sur le terrain, c'est cela. Donc, eux, ils ont à l'idée que c'est le travail qui est payé et non le travailleur, alors que les parents d'élèves, comme vous le dites, bien sûr, payent les 9 mois. Donc, il faut introduire une loi au niveau du CNT pour réglementer le secteur, que l'État ait une visibilité sur le nombre d'écoles et leur fonctionnement, et que l'État puisse aussi les appuyer dans leur fonctionnement, puisque ces écoles privées aussi viennent en aide à l'État dans le vaste chantier de scolarisation des enfants. Et donc, je pense que cela dénote de la volonté du ministre à vouloir aller trop vite, sans pour autant s'approprier les stratégies et les méthodologies qui s'adaptent à cette façon de faire. Je pense qu'il doit rétro-pédaler et rendre visite aux fondateurs, aux associations de fondateurs d'écoles, pour leur dire voilà ce qu'il faut. Et je pense qu'à l'issue de cela, ils pourront trouver un terrain d'entente.
Merci beaucoup, M. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation, d'être passé dans le Grand Ring.
Bonjour à tous.
Le Grand Ring, ici, la vérité survit sur le détour des manipulateurs.
Je le disais au sommaire de cette émission, depuis l'étranger, l'ancien président guinéen fait encore parler de lui dans les médias chez nos confrères de Jeune Afrique. Professeur Alpha Condé crie à la trahison autour dans son entourage. Si je savais que Doumbouya était un ancien légionnaire français, je ne l'aurais pas nommé, a déclaré l'ancien homme fort de Conakry. Pourquoi c'est maintenant fait-il de telles déclarations? C'est une sortie quand même qui intervient à l'occasion du premier anniversaire du CNRD au pouvoir, Éloi Kamanon.
Bon, je pense que ce n'est pas une nouveauté, la déception du président, de l'ancien président guinéen, Alpha Condé. Il est complètement déçu de son entourage, ça il faut le dire. Il faut qu'on se dise cette vérité. Mais dire pourquoi, et à chaque fois, c'est dans Jeune Afrique, on voit souvent des sorties d'Alpha Condé. Est-ce que le patron ne serait pas un ami intime?
C'est eux qui ont accès à lui.
Non, mais attention, attention. Ce n'est pas parce que ceux qui travaillent à Jeune Afrique sont super plus que les autres.
Cette émission est une rediffusion.
Journaliste du Monde. Et selon nos informations, que ce patron serait un ami du professeur Alpha Condé. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, il faut que la vérité là soit sur la place publique. Le président, d'une part, a été trahi par son entourage parce qu'on ne peut pas comprendre une présidence de la République de Guinée où on peut avoir plus de 100 militaires. Pour aller à la présidence de la République, vous le savez déjà parce que vous y étiez, vous aviez été là-bas à plusieurs reprises. Et à chaque rencontre avec le président, moi j'y étais de la partie à chaque fois que le président convoquait la presse. Mais il faut voir la sécurité qui était là. Et il y a combien de ceintures? Si, sans trahison, sans démagogie, je pense que le colonel ne serait pas où il est aujourd'hui. Le président dire qu'il a été trahi, il a été trahi par son entourage. S'il savait, il n'allait pas envoyer Doumbouya en Guinée.
Commandant des forces, il n'allait pas le nommer commandant des forces spéciales.
Vous savez, la nomination de Doumbouya n'est pas un mal en soi. Doumbouya avait pour mission de sécuriser la nation à travers son équipe qu'on appelle les forces spéciales. Vous savez, les forces spéciales n'existent pas en Guinée seulement. Vous avez des forces spéciales. Même au Mali, il y a des forces spéciales. Même en Côte d'Ivoire, il y a des forces spéciales. C'est une équipe qui a une formation au-delà des autres unités de sécurité des autres pays. Ce sont des gens qui sont formés à lutter contre le terrorisme. C'est la mission essentielle. En dehors de nos frontières, ce sont des gens qui se battent pour sauver les nations parce que le système d'intervention des terroristes, c'est un autre système. Je pense que la nomination ou la venue ou l'arrivée de Doumbouya en Guinée était une action du président qui n'était pas à regretter aujourd'hui. Moi, à la place du président Alpha Condé, je n'allais pas le dire parce qu'on ne doit pas regretter lorsqu'on fait du bien à la nation.
Boukabari, dans cette interview, le président Alpha Condé dit clairement que le CV qu'on lui a soumis, le CV du colonel Doumbouya qu'on lui a soumis, l'actuel président de la transition, en tout cas son CV qu'on lui a soumis, il n'était pas mentionné qu'il était ancien légionnaire de l'État français et que s'il le savait, est-ce que vous croyez en la sincérité de cette déclaration?
Non, c'est pourquoi j'aimerais qu'on qu'on mette les propos de nos confrères de Jeune Afrique au conditionnel. Parce qu'on n'a pas été, on n'a pas écouté
le son. C'est pourquoi on cite Jeune Afrique.
Voilà. On cite Jeune Afrique, ouais, on n'a pas besoin de mettre ça au conditionnel.
Non, sauf que dans tes propos, tel n'a pas été le cas. Tu as complètement affirmé comme eux.
Oui.
Alors,
lorsque je cite une source, je n'ai pas besoin de mettre ça au conditionnel.
Je voudrais qu'on revienne un peu sur cet entretien qui a été accordé, que l'ancien chef d'État a accordé à nos confrères de Jeune Afrique. Mm-hmm. Parce que là, Alpha Condé évoque trois raisons. Premièrement, il dit, selon toujours ce journal, la première grosse erreur qu'il a eu à faire, c'est le fait de se couper de tout le monde,
de changer son téléphone,
parce que d'habitude ses contacts étaient accessibles à presque à tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde, des citoyens l'envoyaient des SMS, des messages, d'aucuns l'exprimaient.
Même moi j'avais ce numéro.
Et tant d'autres. Alors il a décidé juste après le troisième mandat de rester maintenant seul, parce que vu les différentes duperies, les tromperies auxquelles il a eu affaire avec des personnes qu'il avait vraiment de l'estime, de la confiance, il a décidé cette fois-ci de rester seul, c'est-à-dire
de se bunkeriser
et puis décider presque seul. De là, il ne recevait plus des messages d'alerte des uns et des autres. Il dit
c'est le premier facteur.
Deuxièmement, il dit c'est le fait que il n'a pas su approcher certains hauts commis de l'État, c'est-à-dire qui étaient avec Conté, qui savaient, qui ont cette maîtrise de toutes sortes de préparations de coups d'État en matière d'alerte, et que tel n'a pas été le cas avec lui. Et la dernière grosse erreur qu'il aurait commis, c'est le fait de mettre Doumbouya, des forces spéciales d'alors, actuel président de la République, à ce poste de forces spéciales. Parce que selon le procès Alpha Condé, il n'avait pas du tout le contenu du parcours de ce garçon du côté de l'Hexagone. Et voilà pourquoi, selon lui, ces trois facteurs l'ont conduit vraiment à être victime de ce qu'il a connu.
Mais pourquoi il fait de telles déclarations un an après la prise du pouvoir?
Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi, quelle est l'utilité, quelle est la finalité recherchée par le procès Alpha Condé dans sa sortie? Et premièrement, de mon côté, je pense que avec le recul qu'il a pris, il s'est fait une introspection interne pour dire, quand on doit gérer, il faut forcément avoir affaire avec tout le monde. C'est-à-dire être vraiment inclusif, être vraiment ouvert, ne pas s'isoler comme le fait actuellement Doumbia aussi actuellement dans notre pays. Donc Alpha Condé a tiré cette leçon. Deuxièmement, il reconnaît en lui que dans ses nominations, il n'y avait pas cet approfondissement d'enquête au niveau des personnes qu'il nommait. Raison pour laquelle il pouvait nommer aujourd'hui, demain ou après-demain, un mois ou deux mois, et puis il révoque l'intéressé. Et troisièmement, dans cette sortie, toujours la troisième leçon que je peux tirer de cela, c'est que Professeur Fakonde reconnaît quand même que son entourage n'a pas été honnête envers lui. Son entourage n'a pas en lieu et place de le servir. C'est plutôt
servi de lui.
Ils sont servis du professeur. C'est un conseil très fort qu'il a envoyé aux uns et aux autres, non seulement aux responsables guinéens, mais aussi à l'ensemble des chefs qui auront à quelques durées déterminées ou indéterminées de la gestion de leur pays, de le faire dans l'inclusivité.
Celui qu'on appelle le renard de la Guinée, celui qu'on appelle le chat, c'est un fin technocrate dans le processus politique. Est-ce que vous y croyez réellement? Parce que la question qu'on se pose, pourquoi c'est maintenant le professeur Alpha Condé faire de telles déclarations, celui qui a vécu pratiquement, qui a fait toute sa vie en France, dire qu'il ne connaissait pas le parcours du légionnaire qui a servi la France, est-ce que ce message n'est pas un message voilé?
Bon, vous savez, ce n'est pas parce que Doumbouya a servi la France Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de l'entourage. Le président est dans un regret et donc dire que c'est maintenant qu'il faut le faire, il n'est pas trop tard pour bien faire. Et pour des raisons de sécurité, le président Alpha Condé ne pouvait pas faire, il pouvait pas faire toutes ces révélations en Guinée. Pendant que tu es géré, celui qui te dirige est là, tu lui dis non mais tu m'as fait ça, si je savais je n'allais pas te nommer, est-ce que tu allais... Il va même couper ton manger. Finalement, tu vas mourir parce que si tu meurs, tu n'auras rien à dire maintenant. Dire que, est-ce que l'entourage n'a pas aussi trahi le président? Moi, je pense que ça, c'est une évidence. Si le président n'a pas été trahi par son entourage, je ne sais pas s'il pouvait être là où il est aujourd'hui. Mais l'un dans l'autre, je pense que le président, je pense, il ne doit pas se focaliser à ses dénonciations, à ses révélations. Ce qui reste clair, il n'a qu'à rester en Turquie auprès de son ami, voir qu'est-ce que Dieu a réservé pour lui, pour le reste de sa vie. Je sais, bon, peut-être qu'après Doumbouya, il peut revenir. S'il a la confiance du peuple, s'il sait qu'il peut servir sa nation, il n'a pas fini ses projets. Le président Alpha Condé peut revenir au pays une candidature.
Il a fini ses deux mandats démocratiques.
Il n'a pas fini, vous le savez. Non, attendez, quand on parle aussi de la démocratie, c'est... La démocratie, c'est la contradiction. Lorsqu'on est parti à un référendum en 2020, et une constitution a été écrite et élaborée. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas de troisième mandat sur le plan juridique. Il n'y avait pas de troisième mandat en République de Guinée. Je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Il n'y avait pas de troisième mandat dans la mesure où il y a des leaders qu'on considère que ce sont des gros bonheurs qui ont accepté d'aller à une élection sur cette nouvelle constitution. Dans la mesure où un opposant farouche accompagne une constitution, dans ce cas, on ne parle plus de troisième mandat. On avait un premier mandat de la dernière constitution de la quatrième république, de la constitution de 2020. Nous n'étions plus dans un contexte de troisième mandat. Le président Alpha Condé était dans son premier mandat de la quatrième république et il n'y avait pas de problème là-bas. Ce qui reste clair, le président, après, les militaires peuvent revenir, il n'a qu'à arrêter, cesser de faire ses révélations. Parce que quand on se dit chef, c'est aussi le secret. Il ne faut pas tout dévoiler. Quand il sera au pouvoir, les gens auront peur même de s'approcher de vous. Parce qu'à la longue, vous allez tout dévoiler. Je pense que la meilleure méthode, la meilleure façon pour le président Alpha Condé de maintenir sa crédibilité auprès du peuple de Guinée, qui, selon lui, avait l'ambition d'accompagner ou de servir avec loyauté, je pense que le président Alpha Condé doit cesser de faire des révélations, se reposer très bien, se positionner, qu'après les militaires, il peut revenir servir la nation.
Dans cet article, Jeune Afrique va jusqu'à indexer certains, parce que selon le professeur Alpha Condé, il aurait reçu des pressions de certains membres de son entourage. Jeune Afrique va jusqu'à citer certains noms, deux de ces noms sont en prison, dont Mohamed Gani, ancien ministre de la Défense, Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre, jusqu'à citer l'ancien conseiller personnel de l'ancien président guinéen Thibault Camara, qui aurait mis pression sur le professeur Alpha Condé à accepter Doumbouya pour diriger les forces spéciales.
Vous savez, j'ai dit, la venue de Doumbouya ne cause pas problème. En Guinée, quel que soit ton bagage intellectuel, si tu n'as pas un bras long auprès du président, il faut être appuyé. Tu peux quitter la Sorbonne, aller de l'autre côté, étudier, revenir. Vous avez toutes les qualités qu'il faut, mais si vous n'avez pas un appui, mon frère, vous n'allez pas passer. Avoir ces gens autour de toi qui ne te disent pas la vérité, qui disent non, mais lui, il est bien parce qu'il y a déjà des combis, des pots de vin et les dessous du table. Donc, je pense que ce sont des gens qu'on... Il peut citer, mais Thibault, par exemple, à l'époque, c'était le Messie. C'est un monsieur qui jouait souvent aux sapeurs-pompiers. Et s'il y a une crise entre l'opposition et le président Alpha Condé, c'est ce dernier, c'est ce monsieur, ce grand homme. À l'époque, on disait le Messie. Si Thibault venait chez Dalin, ça marche. Si Thibault allait chez Alpha Condé, ça marche. Le lendemain, vous voyez Alpha Condé en image avec son opposant farouche, Seydou Dalin Diallo. Ils sourient ensemble. Ce rôle était le rôle de Thibault. Mais aujourd'hui, si le président dit qui serait aussi, on met ça dans la bouche de nos confrères.
Jeune Afrique.
N'oubliez pas que Jeune Afrique a son correspondant en Guinée. Donc, nous sommes journalistes. On peut avoir toujours nos informations quelque part pour dire, on va citer le président. Parce que là où le président est comme ça, il ne peut pas parler. On a vu ici pour mettre Kassouri à la tête en attendant d'un comité provisoire du RPG Arc-en-Ciel. On a inventé les écritures sur Alpha Condé. Il y a eu des écritures différentes. On dit, bon, c'est lui qui a signé ici. L'autre dit, non, ce n'est pas lui, mais c'est lui qui a signé ici. On envoie un audio pour dire que non, ce n'est pas Alpha Condé. Moi, je n'ai pas besoin de ça.
Donc, c'est des informations que vous prenez à la légère.
À la légère et avec attention, correspondant en Guinée, des sources, qu'elles soient crédibles ou pas, je dis que le président doit mettre tout à l'eau et voir, se positionner pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour la nation guinéenne.
En tout cas, ce qu'on sait du retour du colonel Doumbouya, par exemple, en Guinée, selon des sources, c'est l'actuel ministre de la Défense qui l'aurait présenté, qui l'aurait fait revenir en Guinée lorsqu'il s'était présenté à l'ambassadeur de France, l'ancien ambassadeur de France de la Guinée en France à l'époque, Amara Camara, lorsqu'il a exprimé son intention à l'ancien ambassadeur de la Guinée en France de vouloir servir son pays. Et c'est ce monsieur qui lui a présenté au général Idi Amin à l'époque, directeur du cabinet du ministère de la Défense. Sauf que dans tout ce dossier, on n'entend pas le nom de ce grand officier de l'armée guinéenne.
D'où le doute qu'il faut accorder à ces révélations faites par nos confrères. Parce que au-delà de ça, dans cet article, on ne voit pas les propos du médecin personnel d'Alpha Condé. Parce que d'aucuns estiment que Dr Kaba, qui est celui qui aurait prêté le flanc à Doumbouya, parce qu'il aurait mis à la place publique l'état de santé du professeur Alpha Condé, qui serait condamné pour 6 mois. Donc, à mon et d'aucuns estiment aussi que cette sortie du médecin, le fait de dévoiler cela à la place publique, aurait contribué. Donc il était informé. Quand on dit pourquoi le nom de Kassouri, de Djané et de Thibault apparaît de l'article, parce que d'aucuns soupçonnent ces trois d'être les responsables de la vulgarisation de cette information qui est censée être confidentielle. Alors, est-ce que c'est ce facteur qui a précipité et qui a amené Doumbouya à se préparer conséquemment pour mettre en action ce qu'il avait en idée? Parce qu'il faut quand même se poser des interrogations, même si moi le coup d'État ne m'a pas trouvé en Guinée, mais j'ai l'impression que c'était le coup d'État le plus pacifique et qui s'est produit dans le monde.
Sauf qu'il y a eu des morts. Retire le mot pacifique parce qu'il y a eu des morts.
Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je n'étais pas là. Mais quand même, j'étais quand même très très confus de voir qu'un coup d'État se produit dans un pays un dimanche. Le lundi, les activités reprennent automatiquement, parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre.
Même le dimanche soir, les gens
et puis en plus, il paraîtrait que c'est seulement Kaloum qui a été concerné par cette action qui a vraiment conduit au départ du professeur Fakonde. À mon avis, Djané, qui était du côté de la défense, ne peut pas dire aujourd'hui à l'obligation de faire une sortie médiatique pour donner sa part de vérité après que le professeur Fakonde a donné le ton. Sinon, c'est incroyable que dans une nation, un coup d'État pareil se produit et que le lendemain, tout marche comme si nous étions dans un régime normal.
Ibrahima Dasila.
Dans le grand ring, nous ne portons pas de gants face à l'actualité.
Je le mentionnais également, le président de la transition fait parler son cœur, Binta Lalisso, qui avait d'ailleurs soumis une demande, dont la demande circulait dans le pays, une demande dans laquelle beaucoup demandaient de soutien pour cet artiste. Finalement, le président de la transition vole au secours de Binta Lalisso en offrant à cette dame une voiture et une enveloppe selon la direction de la communication de la présidence. Cette enveloppe servirait à cet artiste de construire une maison enfin de retraite. Bintala Lisso, le message enfin entendu, Boukabari.
Cette émission est une rediffusion.
Bon, d'une part, moi je l'ai dit hier dans d'autres médias, c'est une décision qui me semble être...
populiste.
Même si, non, au-delà d'être populiste, à mon avis, Doumbouya est là à agir... parfois, comme si c'est les réseaux sociaux qui guidaient sa gestion. Parce que, rappelez-vous, à chaque fois, quand des uns et des autres font des sorties sur Facebook pour parler de tel ou de tel monsieur, automatiquement, il réagit.
Nomme
le cas.
On nomme la personne ou on le débarque.
On nomme la personne ou on débarque l'intéressé. Le dernier, un des cas illustratifs de cela, c'est cette mosquée du côté de Andala Rampoint qui a été rénovée qui aurait été rénovée par Doumbouya. C'est-à-dire, il est juste venu là. Il a prié juste après son départ. Les uns et les autres ont pris la photo de la mosquée. Automatiquement, ils ont balancé sur Facebook. Entre-temps, 3 jours après, il aurait décidé de prendre complètement la rénovation de cette mosquée. Un chef doit prendre du temps pour agir. Mais si toutefois vous êtes guidé
par
les réseaux sociaux, comme ce qui se passe du côté de Sigiri, même du côté de cette mairie, parce que je vous apprends que dans quelques jours, il y aura aussi cette dissolution de certaines
mairies
du côté de Conakry. Notamment, si toutefois mon informateur, une source bien introduite, mais laisse voir hier que la mairie de Matoto et celle de Ratoma de Ratoma sont visées par ce remplacement de ces deux maires. Voilà pourquoi Doumbouya doit agir en tenant compte, c'est-à-dire que ça vienne de lui-même, mais pas dans des émotions pareilles. On met juste le nom d'une photo sur Facebook pour dire ah, monsieur le président, il est là, faites quelque chose pour lui, automatiquement il agit. Un chef ne doit pas agir ainsi. Et c'est la différence, encore je le dis, c'est la différence entre les vieux et les jeunes. Tantôt, nous, on agit trop par émotion, alors que l'émotion conduit toujours.
Oui, alors Bintalali, on sait que c'est pas. Le dossier là existe il y a un peu plus d'une année. Il y a même une structure qui avait porté le projet, a organisé une campagne de collecte de fonds pour cette dame qui a quand même servi. Qui a quand même servi plusieurs générations, parce que ça fait. On parle de 40 années de carrière. Eloi Kamano, quand même, ces personnes qui ont servi le pays méritent reconnaissance de la nation guinéenne.
Sauf que ces personnes, la dame, notre maman, je n'ai rien contre elle, Binta, avec son projet Un toit pour Binta Lali, je pense que son message a été entendu et il est tombé dans de bonnes oreilles. Hier, elle a reçu une voiture sortie d'usine, une RAV 4x4 Prado, sortie d'usine, plus une enveloppe qu'on ne connaît pas le contenu selon la suite de communication de la présidence. Je pense que c'est une belle action, mais est-ce que ça suffit? Je dirais non, ça ne suffit pas. Je pense que notre maman n'est pas la seule à servir cette nation sur le plan culturel. Mm-hmm. Est-ce que c'est une... Bon, avant même la maman Lali, il y a un artiste comédien qui a été envoyé d'abord pour les soins en Tunisie.
Je crois que c'est Kintoko qui est mort après. Hein.
Non, c'est pas Kintoko, c'est un autre. Lui, il n'est pas décédé, j'ignore un peu son... C'est pas Mandi quoi, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et c'était la journée d'hier, c'est dans la même journée d'hier. Lui, il est aujourd'hui du côté de la Tunisie pour des raisons de santé. Tout ça, là, ça vient du président de la République, du président de la transition. C'est ce que vous voulez, mais dans le communiqué, dans même la communication de la CDAO, ils ont dit toujours que c'est le président de la République. Et le projet, c'est un bon projet. Un toit pour Binta Lali n'est pas mauvais en soi. Mais est-ce que c'est la seule personne à servir la nation à travers la culture? Je dis non, elle n'est pas la seule. S'il faut, parce que le président ne va pas continuer à aider comme ça. Mm-hmm. À chaque fois qu'un artiste crie au secours, le président vient tout de suite. Vous avez vu avec le projet d'Eli Kamano, le président avait
donné
1,2 milliard de nos francs. Ça, si, on ne peut pas continuer à distribuer de l'argent comme ça. Il faudrait que le président se battre à mettre en place une structure permettant à ces artistes de vivre de leurs œuvres.
C'est une structure, le BGDA est là.
Non, une autre structure parallèle. j'ai dit une structure parallèle qui va prendre en charge toutes les difficultés des artistes qui ont servi la nation. Mais on ne peut pas à chaque fois... la maman n'est pas la seule. Je suis d'accord qu'on vienne au secours de notre maman, parce que c'est notre maman, mm-hmm. mais est-ce qu'elle est la seule? Si vous, la Guinée ne se limite pas à Conakry.
Vous voulez dire que s'il se livre à de telles situations...
Il aura beaucoup d'arnaqueurs. Mm-hmm. Les gens vont se faire des groupes autour d'eux pour dire, écoutez, moi j'ai besoin d'un vélo, j'ai besoin d'une moto, j'ai besoin d'une maison. On met une structure en place, SOS à X, SOS à Y. Mais si on a une structure qui veille sur les œuvres en dehors du BCDH qui s'occupe de petites choses, ça ce sont des petites choses parce que si la structure est incapable. Mais n'oubliez pas qu'il y a des artistes qui refusent de se faire enregistrer de l'autre côté pour avoir le produit de leurs œuvres. Il y a des artistes qui refusent d'aller vers cette direction. Mais je pense que Doumbouya doit changer de méthode. J'ai donné quelque chose, celui de communication, met ça sur la place publique. Celui qui donne n'a pas besoin de merci. Même si celui qui a reçu peut faire le merci, il peut dire le merci après. Mais on n'a pas besoin d'écrire ça, une enveloppe.
On a vu les artistes, des centaines au ministère de la culture. Pour demander des sacs de riz.
Des sacs de riz, ça c'est pas une bonne image. Mm. L'image qui pouvait aider la nation, c'est de créer une structure qui viendra en aide aux artistes en cas de nécessité. Pour que le président de la République peut subventionner ça. On peut subventionner, créer des entreprises, mettre à la disposition de ces artistes, au-delà de leur musique, au-delà de la culture, peuvent encore se voir dans autres structures, autres entreprises. Ils peuvent être des patrons d'entreprises et à la longue, en cas de cas, qu'on fasse quelque chose pour que ces gens-là puissent se prendre en charge. Mais continuer à distribuer des voitures, continuer à distribuer de l'argent, ça ne peut pas résoudre le problème. Ce qu'il faut faire, il faut créer une entreprise pour des artistes ou tous les éléments de la culture guinéenne pour qu'on arrête de quémander sinon.
De la
mendicité, sinon nous allons tomber dans une catégorie, dans une forme d'arnaque où chacun viendra avec son clan pour dire, monsieur le président, l'autre est malade, on invente les choses.
Est-ce que vous partagez cet avis de Éloi, vouloir ouvrir, en tout cas se livrer à de telles situations? C'est vrai que offrir un toit à Dame Bintalali pour les actes posés n'est pas mauvais en soi, mais est-ce que vous partagez, est-ce que si le président se livre à de telles situations, on risque d'ouvrir en tout cas des ONG d'arnaque, des ONG de mendicité dans le pays finalement?
C'est le cas avec Eli Kamano. Parce qu'à mon avis, c'est tout simplement de l'arnaque.
Non, mais l'argent a servi au financement de certains malades.
Quel financement parlez-vous? Ça a plutôt permis à Élie de prendre le vol, aller du côté de Paris, payer un plateau sur TV5 Monde pour défendre le bilan de CNRD. C'est tout. Il faut le dire. Ça a servi à quoi? On n'a pas vu des malades sur lesquels qui figuraient sur la liste d'Élie Kamano qui ont fait des sorties médiatiques pour dire au président, nous, on n'a pas été envoyés par Élie pour nos soins. Mais plutôt, on a vu Élie du côté de la France, invité de TV5, il a eu plus de 20 minutes de communication qu'il a eu à faire pour défendre le bilan du CNRD. À mon avis, c'est pas sérieux, c'est de l'escroquerie tout simplement. Aujourd'hui, mais ça ne m'étonne pas, connaissant bien l'entourage de Doumbouya, moi ça ne m'étonne pas. Voir aujourd'hui le pays dans cette misère que nous sommes en train de vivre, ça ne m'étonne pas du tout. Aujourd'hui, la Lonagui qui a récupéré Guinée Games, il y a des Guinéens qui vivaient sur grâce à cette société qui était bien entretenue par Antoine Soiré. Aujourd'hui, ces Guinéens se retrouvent aujourd'hui à faire de la mendicité de la ville. On n'en parle pas. Pendant ce temps, la Lonagui est incapable de bien gérer cela. Hier, j'ai eu un des responsables quand je me suis présenté à lui pour lui dire nous souhaiterons avoir l'état des lieux de où est-ce que nous en sommes, quelles sont les statistiques qui sont à votre niveau. Il m'a dit clairement la vérité, monsieur Barry, nous avons d'énormes difficultés actuellement dans la gestion de cette loterie nationale. Il me l'a avoué. Il me promet de me rencontrer quelques jours afin qu'il puisse faire une communication, parce que selon lui, il ne peut pas se taire par rapport à ce qui se passe au niveau de la Lonagui. À mon avis, c'est incroyable.
Aujourd'hui, on laisse tout cela, on se focalise sur des émotions. Il suffit juste de mettre la collé à ses côtés. Et les responsables de cet accompagnement, c'est nous les médias. C'est nous, il faut le dire, c'est nous les médias, c'est nous. C'est nous qui accompagnons parfois des escrocs, entre guillemets, qui sont là, qui vivent, c'est-à-dire au-delà de défendre nos causes, on les accompagne. Et là, le cas de Likamono qui a été reçu dans des médias pour défendre un projet qui n'a pas du tout, il sait pertinemment que tel n'est pas sa vocation.
Est-il une bonne chose d'offrir un toit à Dame Bintalali?
Je ne m'oppose pas. Sauf que c'est vous avez vu combien dans ce mois-là, il y a combien de dons? Combien de dons?
Je n'en sais pas.
Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pendant ce temps, il y a ces fonds devraient être mis pour servir à quelque chose. On a des orphelinats qui ne sont pas entretenus. Parce que là, c'est visible, c'est un endroit serré fixe. Tous les orphelinats en Guinée, il faut forcément des institutions internationales pour les accompagner. Mais quand il s'agit de mettre... Mais je comprends bien, hein, c'est purement de la politique. C'est de la politique parce que on a vu quand il a donné la voiture à Dame André Touré. Nous avons sorti des communications ont été faites dans ce sens. Donc il a compris forcément comme l'affaire Dame André Touré est beaucoup plus d'actualité que Binta Lesso. Automatiquement, semblerait-il qu'on l'a conseillé aussi de voir le cas de Binta. Raison pour laquelle il a procédé à cela. Vous savez, il faut qu'on sorte dans ces actions émotionnelles qui n'ignorent pas notre pays. Notre pays a toujours fonctionné ainsi. Mais pour des questions concrètes, pour des questions de futur, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Doumbia, sur le secteur éducatif, agricole, qu'est-ce qui est fait? Absolument rien. Pas plus qu'hier, je suivais l'édition d'Edine Radio de la Place, où on parle, où des agriculteurs ont du mal à se trouver des entrants agricoles, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accompagnement avec Alpha Condé, tout ce qu'on dit, et malgré les critiques qu'il a eues, mais quand même, c'est quelques accompagnements est tombé. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation où, presque, si on peut le dire, on est conduit par des aveugles.
Nous sommes dans une situation où on est conduit par des aveugles. Déclaration de Boukabari. 10 minutes seulement nous séparent de la fin de cette émission. Au cours de dans le compte-rendu de la cellule de communication de la présidence, paru dans plusieurs sites, le président aurait demandé à Dame Bintalali d'œuvrer pour la paix, d'appeler dans ses musiques, dans toutes ses sorties, d'appeler à l'apaisement, de contribuer.
Cette émission est une rediffusion.
À sa manière, à l'apaisement, à la promotion de la paix et la quiétude sociale dans le pays.
Oui, moi je pense que c'est là-bas, je doute beaucoup sur ce don.
Si vous don empoisonné.
Non, mais oui, écoutez, c'est clair. Lorsque vous donnez, vous offrez quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui dicter les lois. Dire qu'il faut chanter. La maman, ce n'est pas une nouveauté. La maman, ce n'est pas sa première fois de prendre le micro. Ce n'est pas la première fois de chanter. Elle n'a jamais appelé à la haine ou ni à la violence. Donc, ce n'est pas Doumbouya en l'offrant cette enveloppe dont je ne connais pas le contenu. Et ce que j'ai vu, c'est la RAV 4x4 et flambant, pyromane, sortie d'usine, il faut le dire ainsi. Et il faut dire que... Et ce que disait Bouka, c'est une très bonne chose, c'est que dans ce pays, l'essentiel n'est pas fait. On veut toujours passer au populisme pour se faire voir. Je pouvais comprendre avec la cellule de communication. Bon, ça relève de leur boulot, mais il y a de ces choses, on n'a pas besoin de mettre ça sur la place publique. On n'a pas besoin de mettre, quand on fait un don à celui ou celle qui a servi la nation à travers la culture, on n'a pas besoin d'écrire ça. Quand vous lisez le texte de la cellule de communication, c'est... C'est leur rôle, je sais, mais c'est trop populiste.
Flatteur.
C'est trop flatteur, comme c'est de son habitude, comme est sensible. Mais c'est trop,
parler son
c'est
cœur.
Trop publicitaire. On n'en a pas besoin lorsque vous offrez quelque chose. Le don, c'est entre le cœur et Dieu.
Oui, comme...
Lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas besoin de mettre ça sur la place publique. C'est ce que les pasteurs nous enseignent, c'est ce que les imams nous enseignent. Mmh. Le don n'a pas besoin du bruit. Mais lorsque vous faites quelque chose...
Donnez la main droite sans que la main gauche ne se rende compte.
Ne se rende compte. Mmh. Si vous donnez, taisez-vous et puis c'est la personne... Je pouvais comprendre si c'était notre maman Binta qui avait écrit sur sa page pour remercier le président. Là, d'accord, on pouvait comprendre. Mais la seule ne peut pas prendre tout son temps, toute sa journée d'hier pour faire un texte communicationnel populiste pour dire que ce n'est pas une première. Et ils ont cité même le président a fait ça avec tel, il a fait tel pour tel. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, le bas peuple tire le diable par la queue. Je le dis toujours. Il faut mettre une stratégie en place. Si vous partez dans différents marchés, vous voyez aujourd'hui le prix du pain. Nous ne sommes plus à 4 500, c'est parti carrément à 5 000 francs. Si vous avez 10 personnes à nourrir, vous avez 7 bouches à nourrir, le matin, le déjeuner, attendez-vous à dépenser minimum.
Mais réduisez le nombre.
Non, mais on ne peut pas dire. C'est l'Afrique aussi.
Non, mais réduisez le nombre. Vous ne pouvez,
écoutez,
pouvez pas mettre le nombre d'enfants que vous ne pouvez pas.
Non, ce ne sont pas des enfants.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai 3,
oui,
mais je
ne
peux pas me limiter à ça. Mm. Je peux prendre en charge mes enfants, j'assure la santé, l'éducation, tout ce qu'on connaît pour l'enfant, mais je suis un Africain, je suis issu d'une famille, je suis issu d'une maman qui a des frères, je suis issu d'un papa qui a des frères, etc. Je ne peux pas me limiter juste à mes enfants parce que je suis Africain, je ne vais pas adopter un système français où on dit c'est le père, la maman et les enfants. Non. Si j'ai la capacité de nourrir 1000 bouches chez moi, je le ferai. C'est là où Doumbouya, je m'attendais à Doumbouya, aller s'enquérir des réalités sur le terrain pour dire, écoutez, est-ce que le riz coûte combien? Hein? Le sac du riz coûte combien?
Le riz est à 330 000, je crois.
C'est à Doumbouya, j'ai dit maintenant de faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il peut aller demander le sac du riz coûte combien sur le marché, le manioc, etc. etc. Il a déjà toutes ces informations parce qu'en mettant les envoyés spéciaux sur le terrain, ils vont venir lui mentir. Donc, c'est là-bas, il peut aider le peuple. En un coup, il peut aider le peuple. Il fixe un prix à Conakry. Vous payez un bic à 1000 francs à Conakry. Vous allez à Yomou, parce que je pense que c'est la dernière préfecture. Vous allez à Yomou, qui est à 1029 km de Conakry. Mm. Vous trouvez le même prix à 1000 francs. Mais lorsque vous payez un sac de riz à 300, 350 000 à Conakry, si vous dépassez seulement Koya, vous allez vous trouver dans 500 000 ou 450 000. Les prix ne sont pas fixés d'une manière nationale. Mais je pense que Doumbouya, pas mauvais de donner quelque chose à Dame Binta ou de l'offrir une voiture ou de construire une maison pour elle, mais ça ne peut pas être continuel. D'autres viendront avec des clans pour passer à leur façon d'arnaque. Qu'il arrête, qu'il voit d'abord la souffrance du peuple et qu'il prenne le taureau par les cornes pour que le pays aille de l'avant parce qu'on l'attend beaucoup, on l'attendait beaucoup. C'était un espoir, mais pour moi, ça devient un désespoir.
6 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On le mentionnait à l'entame, Sahia Lundi Camara, jusqu'hier dans l'après-midi, en tout cas jusqu'hier matin, directeur national. Directeur national de l'entretien routier a été suspendu de ses fonctions pour faute grave manquement à ses obligations, notamment dans l'exécution des travaux, en particulier le carrefour de Tombo. C'est ce qui ressort d'une décision, d'un arrêté du ministre des infrastructures et des transports, Yaya Sow. Sahia Lundi, en tout cas, c'est un technicien qu'on a connu longtemps dans ce département, aujourd'hui qui est suspendu et qui est remplacé par, pour l'instant, l'intérim de ce service est assuré par Mami Kondé, directeur national des routes nationales qui assure l'intérim, les routes. Une autre préoccupation également des Guinéens.
Quelle préoccupation des Guinéens? Nous, on est en manque de tout. Mais ça m'étonne pas. Je vais vous raconter juste une petite histoire en 5 secondes. Hier, j'étais avec un écrivain guinéen, Alioune Fantouré, qui est du côté de la France. Nous parlions un peu de l'actualité nationale. Il me dit, Barry, tu sais pourquoi nous sommes dans cette situation? J'ai dit non. Il me dit, je vais te raconter pourquoi l'œuvre de René Dumont, L'Afrique noire est mal partie. Il me dit, l'inspiration, le titre de ce livre vient de la Guinée. J'ai dit, comment? Il me dit, un jour, le monsieur, il est venu en Guinée. De la Guinée, il a sillonné presque toutes les villes, toutes les préfectures de la Guinée, les 33. À son retour, il avait pris des échantillons dans chaque région, la Forêt, le Fouta, la Haute-Guinée, la Basse-Côte, des échantillons, c'est-à-dire qui prouvaient vraiment que notre pays est propice à l'agriculture. Mmh. Il vient avec sa veste, et il trouve Essai Koutouré assis du côté de Kaloum, il expose les caractéristiques de chaque région, il dit, Monsieur le Président, dans des années, la Guinée sera la puissance qui va vraiment servir tout le monde si toutefois vous mettez en valeur ce que vous voyez sur la table. Mm. Vous comprenez? Mm. Et la réponse que c'est quoi il allait dire, moi, mon ambition, avec tout ce que Dieu a donné, la bauxite, l'or, le diamant, dans quelques années, vous verrez, tous les Guinéens auront une voiture Mercedes. Mm. Il a pris ce qu'il avait exposé devant ses coups, il l'a mis dans son sac, Il est reparti.
Mmh. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, oui.
Il voulait dire par là, mmh. Il voulait faire comprendre à Sékou, le développement de notre pays repose sur l'agriculture. Malheureusement, tous les régimes qui sont succédés dans notre pays, personne n'a fait de cela sa priorité.
Non, ça n'a compté.
Il n'a pas fait. Non, malgré ce qu'il a fait. Maintenant, je termine. C'est la même chose.
Le projet routier.
Oui. Aujourd'hui, nous savons combien de fois le professeur Fakonde s'est investi pour vraiment permettre aux Guinéens d'avoir des routes de qualité. Mm-hmm. Comme il a exprimé le souhait avec l'agriculture.
La route qui mène chez moi est bien établie.
Malheureusement, les cadres avec lesquels il a eu affaire, et il faut le rappeler, Yolande fait partie d'un de ces cadres, mm-hmm. qui a occupé ce poste durant des années.
Oui.
Mais absolument rien n'est fait. Parce que du côté de Carrefour Kabylé, là où de Symphonia jusqu'à là où l'entreprise de KPC gère, qu'est-ce qui est fait? Absolument rien. Mais il n'en parle pas. Il n'en parle absolument. Vous partez même à l'intérieur de Kaloum, le centre-ville, centre administratif et politique. Là, il y a des trous béants partout. Qu'est-ce qui est fait? Absolument rien. Voilà des priorités qui devrait être prise en compte par Doumbia. Malheureusement, il ne le fait pas. Yaya Sow dépend de qui? Qui a nommé Yaya Sow? C'est pas Doumbia. Et je rappelle aussi, l'un des départements qui ne fout absolument rien, c'est ce département
de l'infrastructure pour vous ne fout absolument rien. Éloi Kamano, est-ce que cette suspension de Yaya Yalonde vous a surpris?
Bon, pas une surprise, parce qu'en Guinée, on a une leçon à tirer sur des faits. Je pense que chaque équipe, chaque chef vient avec son équipe. Yaya Sow est là, il doit se faire entourer par son équipe, qui pourrait aussi faire ses affaires. Donc, ce n'est pas une surprise de voir que Sa Yolande soit de l'autre côté. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Bouka, dire qu'il crie un effet, ça c'est trop dit. Il y a eu quelque chose, il y a eu des actions qui ont été posées. Dire que rien n'est fait, ça c'est aller très loin.
Le tronçon Koya Furukari est achevé.
Mon ami, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées, mais beaucoup reste à faire. Mm. C'est ce qui est la réalité. Dire que rien n'a été fait, je dis que je ne suis pas d'accord, mais beaucoup reste à faire. Voir qu'il a été suspendu pour faute grave, ce sont eux qui savent des qualificatifs qu'il faut donner à ça, mais j'attends de voir des preuves qui seront brandies par Yaya Sow.
C'est pratiquement fini au compte de ce numéro, le grand ring de ce mercredi 31 août 2022. Merci également. Merci à Ibrahima Dassila pour la conduite technique assistée de Mfa Moussa Souma. Vous nous avez suivis sur la page Facebook Sabari FM 97.3 officiel, mais également en synchronisation à l'intérieur du pays, Kindia, Kankan, Dalaba, Sigiri, Kissidougou sur la 97.3 et 96.9. Merci pour la fidélité. Au revoir.
Écoutez-moi. Écoutez tous. Bien que nous ne soyons pas dans la même pièce, vous me voyez et vous m'entendez distinctement. Regardez bien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Est-ce que je semble nerveux? Est-ce que je transpire? Est-ce que je bafouille? Est-ce que je cherche mes mots? Est-ce que ma voix tremble quand je vous parle?
Sabari FM, la radio qui vous parle.